Chers frères et sœurs, j'ai retenu ce texte parce que entre le 18 et le 25 janvier, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et de manière peut-être un peu facétieuse, je trouvais que ce texte pouvait nous dire des choses intéressantes sur la question de l'unité. Tout d'abord, pour mettre à mal ce qui est peut-être une sorte de fantasme chrétien, fantasme selon lequel il y aurait eu un temps, un âge d'or, où il n'y avait qu'un seul christianisme, où il y avait une harmonie parfaite, où tous communiaient au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi aux mêmes idées, aux mêmes doctrines, aux mêmes pratiques, bref. Il n'y avait qu'un seul corps, lisse et agréable à voir. Dans des termes assez euphémiques, l'apôtre Paul parle d'un conflit majeur entre lui, l'apôtre Pierre, et en fait, la communauté de Jérusalem dirigée par Jacques, probablement le frère de Jésus. Cela nous montre qu'il n'y a jamais eu un christianisme uni au sens où il y aurait une unicité de pratique et de doctrine. Mais ce n'est pas cela qui va m'intéresser le plus. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'apôtre Paul gère cette situation. Et le sujet qu'aborde l'apôtre Paul dans cette lettre est celui du rapport que nous entretenons avec les personnes qui ne sont pas de notre communauté, et notamment les personnes qui ne sont pas de notre communauté de naissance. Vous savez, celles et ceux qui n'ont pas eu d'ancêtres galériens, celles et ceux qui n'ont pas leur patronyme inscrit au musée des êtres. À l'époque de Paul, la communauté en question était celle de Jérusalem. C'est la maison mère. C'est le temple de Magdala. Cette communauté est composée de disciples du Christ issus du judaïsme. Et ils sont souvent appelés les judéo-chrétiens. Ce sont des juifs qui adhèrent à l'enseignement du Christ. Les autres, ceux avec qui la relation était en jeu dans cet épisode, étaient ceux qui se reconnaissaient comme disciples du Christ Jésus, mais qui étaient issus du monde païen. Ils n'étaient donc pas circoncis. Ils n'avaient pas profité du catéchisme. Ils ne connaissaient pas le détail des livres de la Bible, en particulier de la Torah, autrement dit, la loi. Et forcément, quand on ne connaît pas la loi, on ne peut pas la suivre. On ne peut pas la respecter à la lettre. Ces personnes sont souvent appelées païens-chrétiens. Ce sont des chrétiens issus du monde païen. Parfois, du point de vue juif, on les appelle les gentils. Les païens-chrétiens, nous le comprenons bien, ne pouvaient donc pas avoir les mêmes usages que les judéo-chrétiens. Notamment, en ce qui concernait les rites. Pour bien comprendre cela de manière là aussi un peu facétieuse, on comprend bien que quelqu'un qui entrerait pour la première fois dans un temple et qui n'aurait pas été bercé avec les cantiques de Clément Marot, les psaumes mis en musique, pourrait entrer en se disant « Je rentre dans un lieu de culte chrétien, je vais donc commencer par me signer, faire un signe de croix sur moi. » Pour le protestant qui était protestant déjà du temps des Vaudois, c'est invraisemblable. Comment cela est-il possible? Vous voyez le genre de clivage qu'il peut y avoir. Eh bien, les pratiques et les rites pouvaient différer entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens. Les prescriptions relatives au cachère, par exemple, n'étaient pas vraiment dans les préoccupations des pagano-chrétiens. Et, manifestement, cela ne semblait pas gêner l'apôtre Pierre. Jusqu'à ce qu'une délégation de la maison mère Jérusalem, vienne mettre son nez dans les affaires de la communauté, et manifestement, la présence des émissaires fut suffisamment coercitive pour que Pierre change de manière de faire et cesse de faire table commune. Et cela n'est pas du goût de l'apôtre Paul, qui le traite d'hypocrite, qui le reproche de ne pas être ferme dans ses convictions. Alors le premier point que je retiens de cela, et pour le dire aussi clairement que possible, c'est que la position de l'apôtre Paul est d'affirmer que ce n'est pas la loi qui fait la communauté chrétienne. Les chrétiens ne sont pas ceux qui suivent scrupuleusement une loi particulière, qui serait par exemple écrite dans les textes bibliques. Les chrétiens ne sont pas repérables à une manière d'agir, à une manière particulière. Et du coup, nous pouvons même dire qu'il n'y a pas d'éthique chrétienne, au sens où il y aurait une manière de se comporter qui serait spécifique aux chrétiens. Ou pour le dire en suivant cet épisode, être chrétien, visiblement, ce n'est pas agir en se conformant à une règle qui serait valable pour tous. Bien entendu, l'histoire du christianisme montre que la position de l'apôtre Paul n'a pas toujours été suivie. Pas plus tard qu'hier, ça c'est de l'histoire ultra-contemporaine, hier, samedi 20 janvier 2018, le porte-parole adjoint de la Conférence des évêques de France écrivait au sujet du mouvement des jeunes ruraux catholiques, vous aurez peut-être vu ça dans les médias, MRJC, un mouvement qui déclarait se désolidariser du mouvement La Marche pour la Vie, initié par l'Église catholique. Et au sujet de ce mouvement, au sujet de cette marche pour la vie, les jeunes ruraux écrivaient qu'ils se désolidarisaient d'une initiative qui, selon eux, était entachée, je cite, de messages de culpabilisation, d'intolérance et de haine sous couvert de valeurs chrétiennes. Et ce communiqué ajoutait, nous défendons le droit fondamental pour les femmes et les couples d'avoir recours à l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Donc, voilà un mouvement catholique qui se désolidarise d'une initiative catholique destinée à bien indiquer que pas de PMA pour tous, pas de GPA, et ainsi de suite. Le message du porte-parole fut le suivant, je cite, ces propos sur l'avortement sont contraires à ce que dit l'Église. On ne peut que considérer qu'ils sont le résultat de l'erreur d'une personne et du dysfonctionnement d'une organisation qui n'a pas vérifié. Le MRJC ne peut s'extraire ainsi de l'Église. Merci de retirer ce poste. En langage courant, merci de retirer ce message qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Je me contenterai de constater qu'il y a là une divergence semblable à celle qui opposait autrefois l'apôtre Paul à la maison mère de Jérusalem autour de la figure de Jacques. La question est-il possible d'avoir une pluralité de pratiques au sein de l'Église? Ou en d'autres termes, peut-on avoir une éthique différente de celle professée officiellement sans risquer d'être exclu de la communauté? Le texte biblique ne tranche pas. Et c'est heureux. De cela, je crois que nous pouvons dire que le protestantisme en a conclu que de toute façon, ce n'était pas à l'Église de professer une éthique particulière. Nous pouvons apporter des éléments de réflexion pour que chacun puisse penser son éthique personnelle, mais au bout du compte, Je crois que ce qui caractérise notamment celles et ceux qui fréquentent nos assemblées, c'est qu'ils n'attendent pas de l'Église qu'elle leur dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Même pas trop ce qu'il faut croire. En se référant à l'apôtre Paul, nous pourrions considérer que la loi ne faisant pas la communauté, il peut y avoir plusieurs lois qui coexistent au sein de la communauté sans que la communion soit pourtant rompue entre celles et ceux qui partagent ces écarts. Si je reprends les termes de l'actualité, il est possible d'être authentiquement chrétien, que l'on soit opposé à l'interruption volontaire de grossesse ou qu'on la considère comme une possibilité qu'il ne faut pas interdire. Sur d'autres sujets, nous pouvons dire qu'il est possible d'être authentiquement chrétien en étant militaire ou en étant opposé au maniement des armes. Sur un sujet moins sensible, nous pourrions dire qu'il est possible d'être authentiquement chrétien, que l'on ait tous ses points sur son permis de conduire, ou qu'il nous en manque une bonne flopée. L'identité chrétienne ne se joue pas au niveau du respect de la loi. Le chrétien n'a pas de raison d'ignorer la loi, mais ce n'est pas la loi qui va dire qui est chrétien, qui ne l'est pas. Et nul ne peut juger du caractère chrétien de quiconque en fonction de sa pratique de la loi. Qu'il s'agisse de la pratique de la loi de la République française pour ce qui concerne les chrétiens français, ou de la loi d'une église particulière pour les membres d'une communauté d'églises. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Citation de l'apôtre Paul. Si ce n'est pas la loi qui fait le chrétien, c'est mon deuxième point, n'oublions jamais que c'est la foi. Que c'est la foi qui est aux sources de notre identité chrétienne. D'un point de vue chronologique, ce passage de la lettre aux Galates est le premier des textes de Paul sur la justification par la foi, indépendamment de la loi. Et cette justification par la foi signifie que c'est par grâce seule que nous avons notre place dans l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans la communauté humaine que Dieu suscite, et que le protestantisme a régulièrement distingué des églises particulières, des différentes confessions qui constituent le christianisme. L'église de Jésus-Christ déborde largement au-delà de toutes les églises visibles. Des rumeurs qui semblent fondées diraient même qu'il y a des chrétiens en dehors du temple de la rue de Malherbe. Mais nous sommes des scientifiques, cela demandera d'être vérifié quand même. Selon la logique de l'apôtre Paul, quand on refuse la grâce, cette grâce, quand on choisit ses propres critères d'appartenance, quand on bâtit soi-même en quelque sorte, quand on pose soi-même les limites et les frontières, quand on choisit soi-même les critères d'appartenance ou de non-appartenance, c'est le plus souvent pour exclure une partie de la population et se retrouver entre personnes qui ne partagent pas, enfin, plutôt entre personnes qui partagent la même foi, la même loi, la même morale, la même manière de vivre, entre semblables. L'histoire de l'Église a aussi montré combien la rédaction des confessions de foi, par exemple le symbole des apôtres, symbole d'Athanase, etc., n'était pas là pour aider les uns et les autres à mieux formuler leur foi, il va pouvoir stigmatiser celles et ceux qui n'adhéraient pas à tel ou tel point et pour leur dire qu'ils n'étaient plus les bienvenus au sein de la communauté chrétienne. La loi permet d'accuser. La loi permet de condamner. C'est le premier usage de la loi, l'usage pédagogique qui montre à quel point nous sommes fautifs. La loi qui révèle le péché, pour le dire avec l'apôtre Paul. La loi qui montre nos manquements. La loi qui permet aussi de trouver des astuces pour condamner. Souvenons-nous que c'est ce qui est arrivé à Jésus. il fut crucifié selon la loi de l'assemblée religieuse de son époque, le Sanhédrin. La loi permet de retrancher les éléments étranges de la communauté. Quand on veut faire une loi sur le port du foulard, c'est souvent pour limiter la présence des porteurs de foulard, pas au premier chef pour libérer la condition féminine. La résurrection de Jésus qui suit la crucifixion à cause de la loi révèle que Dieu n'est pas du côté de la loi qui accuse. Il n'est pas du côté de la loi qui exclut. De la loi qui met d'abord, au moins sur le plan symbolique, mais que Dieu est du côté de ceux qui favorisent l'inclusion. L'inclusion de chacun dans la communauté humaine. On veut sortir quelqu'un de la communauté, Dieu désigne ce qui ramène ce quelqu'un au sein de la communauté. Et Jésus incarne la volonté de Dieu en ce que toutes ces rencontres sont justement destinées à réintégrer au sein de la communauté humaine celles et ceux de la communauté humaine s'étaient efforcés de mettre à marge. La marge fait peut-être donc bien partie de la communauté chrétienne de Montpellier aussi. Vous êtes prévenus, hein, ça va être un moment un peu facétieux. La grâce, telle que nous la comprenons dans les propos de l'apôtre Paul, est donc un principe d'identité inclusive, qui passe outre les critères toujours secondaires que nous établissons pour dire qui est qui et qui peut être avec qui. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dira qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni femme ni homme. Cela signifie que la foi chrétienne est en mesure d'intégrer les variations de pratiques, d'intégrer les variations d'usage, d'intégrer les variations de discours et d'idées. Les particularités ne sont pas des critères à appliquer de manière autoritaire. Les signes distinctifs ne sont pas considérés comme des critères d'appartenance. Si parler la même langue est effectivement pratique pour se comprendre dans le cadre d'une religion fondée sur la parole, et j'en profite pour saluer tout particulièrement celles et ceux qui ne nous comprennent pas venant d'Iran, mais qui, grâce à un intermédiaire, l'ange Barbara, trouveront un peu de réconfort de traduction en allemand. Vous voyez un peu les détours que prend la grâce. La langue ne saurait être un critère déterminant qui fait partie de l'Église, qui n'en fait pas partie. Les catégories socioprofessionnelles sont tout aussi inutiles. Le port d'une croix de note n'a rien d'un caractère obligatoire non plus. Être incirconcis n'est pas à l'inconvénient. Pas d'obligation de prendre rendez-vous avec votre chirurgien lundi matin. Même manger des chocolatines plutôt que des pains au chocolat est autorisé. La communauté chrétienne est souple. La communauté chrétienne est poreuse. Elle ne refoule pas les personnes en fonction de normes morales, de normes idéologiques, de normes philosophiques. Ainsi, on peut être éloigné du temple de la rue Magnum, peut-être même habité du côté de Cour-Lanterral, de l'autre côté de l'Aisne, sans pour autant être éloigné de Dieu. On peut être loin de se déclarer chrétien, on peut peut-être même ignorer le nom de Jésus-Christ, sans pour autant être loin du Dieu de Jésus-Christ. Cela est possible, parce que la foi se traduit par des confessions de foi variées, par des rituels variés, par des doctrines sociales variées. La loi ne se fonde pas dans le respect d'une loi, dans le respect d'un code, dans le respect scrupuleux d'un catéchisme. Et du coup, nous pouvons avoir un vocabulaire, une langue qui varie de la langue pratiquée de façon majoritaire, sans pour autant que nous devions être exclus de la communauté. La foi n'est pas une adhésion au statut d'une association cultuelle. La foi est une adhésion à la déclaration inconditionnelle, selon laquelle nous sommes dignes d'occuper une place de choix, sans que nous ayons rien fait de méritoire pour cela. La foi chrétienne est une adhésion à la prédication du Christ Jésus, qui incarna les promesses des témoins de l'Éternel, des témoins du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu de Jésus. La foi chrétienne, c'est cette confiance que même loin du troupeau, même perdu, en général perdu aux yeux de la communauté mère, nous restons l'objet de préoccupation du berger, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non. Dès lors, la foi, c'est ce qui nous intègre dans une communauté élargie au à l'illimité des promesses de l'Évangile. Et cela va bien au-delà de ce que nous envisageons spontanément quand on pense aux frontières de l'Église. Dans l'optique de Paul, la vie du Christ Jésus nous autorise à éprouver l'excellence de la compagnie de ceux qui n'ont pas été élevés avec nous, de ceux qui n'ont pas les mêmes codes culturels que nous, de ceux qui n'expriment pas Dieu de la même manière que nous, et qui peut-être même, à première vue, semblent ne jamais parler de Dieu, ou semblent n'avoir jamais intégré la question de Dieu dans leur propre existence. Dans l'optique de Paul, la vie du Christ Jésus nous permet de découvrir une fraternité élargie qui rend possible la commensalité, la possibilité de partager son repas avec quiconque. C'est-à-dire de pouvoir partager l'essentiel avec quiconque, sans avoir peur d'être exclu de la communauté pour fraternisation, pour pactisation avec l'étranger. Dans l'optique de Paul, la vie du Christ Jésus nous révèle qu'à l'extérieur de notre communauté, à l'extérieur du christianisme identifié comme tel, à l'extérieur des institutions à caractère religieux, il est possible de rencontrer des personnes qui portent en elles toutes les qualités d'enfants de Dieu. Lorsque nous accueillons la grâce manifestée par le Christ, nous vivons en Dieu, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire, nous vivons par-delà toutes les identités particulières qui créent des communautés refermées sur elles-mêmes. Lorsque nous accueillons la grâce, et après tout, c'est quand même ça notre travail, et c'est un peu ça qui fait notre honneur, être porteur de la grâce. Eh bien, lorsque nous accueillons cette grâce, la grâce manifestée dans le Christ Jésus, nous vivons en Dieu, dit l'apôtre Paul. Eh bien, vivre en Dieu, selon cette grâce, c'est vivre un amour sans